Le Capital, livre premier, première section, chapitre grand 3, grand 2, petit b, cours de la monnaie. Le mouvement grand M-A-M, ou la métamorphose complète d'une marchandise, est circulatoire en ce sens qu'une même valeur, après avoir subi des changements de forme, revient à sa forme première, celle de marchandise. Sa forme argent disparaît, au contraire, dès que le cours de sa circulation est achevé. Elle n'en a pas encore dépassé la première moitié, tant qu'elle est retenue sous cette forme d'équivalent par son vendeur. Dès qu'il complète la vente par l'achat, l'argent lui glisse aussi des mains. Le mouvement imprimé à l'argent par la circulation des marchandises n'est donc pas circulatoire. Elle l'éloigne de la main de son possesseur sans jamais l'y ramener. Il est vrai que si le tisserand, après avoir vendu 20 mètres de toile et puis acheté la Bible, vend de nouveau de la toile, l'argent lui reviendra. Mais il ne proviendra point de la circulation des 20 premiers mètres de toile. Son retour exige le renouvellement ou la répétition du même mouvement circulatoire pour une marchandise nouvelle et se termine par le même résultat qu'auparavant. Le mouvement que la circulation des marchandises imprime à l'argent l'éloigne donc constamment de son point de départ pour le faire passer sans relâche d'une main à l'autre. C'est ce que l'on a nommé le cours de la monnaie. Currency, entre parenthèses. Le cours de la monnaie, c'est la répétition constante et monotone du même mouvement. La marchandise est toujours du côté du vendeur, l'argent est toujours du côté de l'acheteur, comme moyen d'achat. À ce titre, sa fonction est de réaliser le prix des marchandises. En réalisant leur prix, il les fait passer du vendeur à l'acheteur, tandis qu'il passe lui-même de ce dernier au premier pour recommencer la même marche avec une autre marchandise. À première vue, ce mouvement unilatéral de la monnaie ne paraît pas provenir du mouvement bilatéral de la marchandise. La circulation même engendre l'apparence contraire. Il est vrai que, dans la première métamorphose, le mouvement de la marchandise est aussi apparent que celui de la monnaie avec laquelle elle change de place. Mais sa deuxième métamorphose se fait sans qu'elle y apparaisse. Quand elle commence ce mouvement complémentaire de sa circulation, elle a déjà dépouillé son corps naturel et revêtu sa larve d'or. La continuité du mouvement échoit ainsi à la monnaie seule. C'est la monnaie qui paraît faire circuler des marchandises immobiles par elle-même et les transférer de la main où elles sont des non-valeurs d'usage à la main où elles sont des valeurs d'usage, dans une direction toujours opposée à la sienne propre. Elle éloigne constamment les marchandises de la sphère de la circulation en se mettant constamment à leur place et en abandonnant la sienne. Quoique le mouvement de la monnaie ne soit que l'expression de la circulation des marchandises, c'est au contraire la circulation des marchandises qui semble ne résulter que du mouvement de la monnaie. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. L'argent, entre parenthèses, n'a d'autre mouvement que celui qui lui est imprimé par les productions. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Le trône, l'oxyte, page 885. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, quoique le mouvement de la monnaie ne soit que l'expression de la circulation des marchandises, c'est au contraire la circulation des marchandises qui semble ne résulter que du mouvement de la monnaie. D'un autre côté, la monnaie ne fonctionne comme moyen de circulation que parce qu'elle est la forme-valeur des marchandises réalisées. Son mouvement n'est donc en fait que leur propre mouvement de forme, lequel, par conséquent, doit se refléter et devenir palpable dans le cours de la monnaie. C'est aussi ce qui arrive. La toile, par exemple, change d'abord sa forme marchandise en sa forme monnaie. Le dernier terme de sa première métamorphose, ouvrez la parenthèse, grand M tiré grand A, fermez la parenthèse, la forme monnaie, est le premier terme de sa dernière métamorphose, sa reconversion en marchandise usuelle, en Bible, ouvrez la parenthèse, grand A tiré grand M, fermez la parenthèse. Mais chacun de ces changements de forme s'accomplit par un échange entre marchandises et monnaie, ou par leur déplacement réciproque. Les mêmes pièces d'or changent, dans le premier acte, de place avec la toile, et dans le deuxième, avec la Bible. Elles sont déplacées deux fois. La première métamorphose de la toile les fait entrer dans la poche du tisserand, et la deuxième métamorphose les en fait sortir. Les deux changements de forme inverse que la même marchandise subit se reflètent donc dans le double changement de place en direction opposée des mêmes pièces de monnaie. Si la marchandise ne passe que par une métamorphose partielle, par un seul mouvement qui est vente, considéré d'un pôle, et achat, considéré de l'autre. Les mêmes pièces de monnaie ne changent aussi de place qu'une seule fois. Leur second changement de place exprime toujours la seconde métamorphose d'une marchandise. Le retour qu'elle fait de sa forme monnaie à une forme usuelle. Dans la répétition fréquente du déplacement des mêmes pièces de monnaie, ne se reflète plus seulement la série de métamorphoses d'une seule marchandise, mais encore l'engrenage de pareilles métamorphoses les unes dans les autres. Note de bas de page. Il faut bien remarquer que le développement donné dans le texte n'a trait qu'à la forme simple de la circulation, la seule que nous étudions à présent. Fin de la note de bas de page. Donc, dans la répétition fréquente du déplacement des mêmes pièces de monnaie, ne se reflète plus seulement la série de métamorphoses d'une seule marchandise, mais encore l'engrenage de pareilles métamorphoses les unes dans les autres. Chaque marchandise a son premier changement de forme, a son premier pas dans la circulation, en disparaît pour y être sans cesse remplacée par d'autres. L'argent, au contraire, en tant que moyen d'échange, habite toujours la sphère de la circulation et s'y promène sans cesse. Il s'agit maintenant de savoir quelle est la quantité de monnaie que cette sphère peut absorber. Dans un pays, il se fait chaque jour simultanément et à côté les unes des autres des ventes plus ou moins nombreuses ou des métamorphoses partielles de diverses marchandises. La valeur de ces marchandises est exprimée par leur prix, c'est-à-dire en somme d'or imaginée. La quantité de monnaie qu'exige la circulation de toutes les marchandises présentes au marché est donc déterminée par la somme totale de leur prix. La monnaie ne fait que représenter réellement cette somme d'or déjà exprimé idéalement dans la somme des prix des marchandises. L'égalité de ces deux sommes se comprend donc d'elle-même. Nous savons cependant, si les valeurs des marchandises restent constantes, leur prix varie avec la valeur de l'or. Ouvrez la parenthèse, de la matière monnaie, fermez la parenthèse, montant proportionnellement à sa baisse et descendant proportionnellement à sa hausse. De telles variations dans la somme des prises à réaliser entraînent nécessairement des changements proportionnels dans la quantité de la monnaie courante. Ces changements proviennent en dernier lieu de la monnaie elle-même, mais, bien entendu, non pas en tant qu'elle fonctionne comme instrument de circulation, mais en tant qu'elle fonctionne comme mesure de la valeur. Dans de pareils cas, il y a d'abord des changements dans la valeur de la monnaie. Puis le prix des marchandises varie en raison inverse de la valeur de la monnaie. Et enfin, la masse de la monnaie courante varie en raison directe du prix des marchandises. On a vu que la circulation a une porte par laquelle l'or, ouvrez la parenthèse, ou toute autre matière monnaie, fermez la parenthèse, entre comme marchandise. Avant de fonctionner comme mesure des valeurs, sa propre valeur est donc déterminée. Vient-elle maintenant à changer ? Soit abaissée. On s'en apercevra d'abord à la source de la production du métal précieux, là où il se troque contre d'autres marchandises. Leurs prix monteront, tandis que beaucoup d'autres marchandises continueront à être estimées dans la valeur passée et devenue illusoire du métal monnaie. Cet état de choses peut durer plus ou moins longtemps, selon le degré de développement du marché universel. Peu à peu, cependant, une marchandise doit influer sur l'autre par son rapport de valeur avec elle. Les prix or ou argent des marchandises se mettent graduellement en équilibre avec leurs valeurs comparatives, jusqu'à ce que les valeurs de toutes les marchandises soient enfin estimées d'après la valeur nouvelle du métal monnaie. Tout ce mouvement est accompagné d'une augmentation continue du métal précieux qui vient remplacer les marchandises troquées contre lui. À mesure donc que le tarif corrigé des prix des marchandises se généralise et qu'il y a par conséquent hausse générale des prix, le surcroît de métal qu'exige leur réalisation se trouve aussi déjà disponible sur le marché. Une observation imparfaite des faits qui suivirent la découverte des nouvelles mines d'or et d'argent conduisit au XVIIe siècle et notamment au XVIIIe siècle, à cette conclusion erronée que les prix des marchandises s'étaient élevés parce qu'une plus grande quantité d'or et d'argent fonctionnait comme instrument de circulation. Dans les considérations qui suivent, la valeur de l'or est supposée donnée, comme elle l'est en effet au moment de la fixation des prix. Cela une fois admis, la masse de l'or circulant sera donc déterminée par le prix total des marchandises à réaliser. Si le prix de chaque espèce de marchandise est donné, la somme totale des prix dépendra évidemment de la masse des marchandises en circulation. On peut comprendre sans se creuser la tête que, si un quart de froment coûte 2 livres sterling, 100 quarts coûteront 200 livres sterling, et ainsi de suite, et qu'avec la masse du froment, doit croître la quantité d'or qui, dans la vente, change de place avec lui. La masse des marchandises étant donnée, les fluctuations de leur prix peuvent réagir sur la masse de la monnaie circulante. Elle va monter ou baisser selon que la somme totale des prix à réaliser augmente ou diminue. Il n'est pas nécessaire pour cela que les prix de toutes les marchandises montent ou baissent simultanément. La hausse ou la baisse d'un certain nombre d'articles principaux suffit pour influer sur la somme totale des prix à réaliser. Que le changement de prix des marchandises reflète des changements de valeur réelle ou proviennent de simples oscillations du marché, l'effet produit sur la quantité de la monnaie circulante reste le même. Soit un certain nombre de ventes sans lien réciproque, simultanées et par cela même s'effectuant les unes à côté des autres. Ou de métamorphoses partielles, par exemple de un quart de froment, 20 mètres de toile, une Bible, 4 fûts d'eau de vie. Si chaque article coûte 2 livres sterling, la somme de leur prix est 8 livres sterling. Et, pour les réaliser, il faut jeter 8 livres sterling dans la circulation. Ces mêmes marchandises forment-elles, au contraire, la série de métamorphoses connues? Un quart de froment, 2 livres sterling. 20 mètres de toile, 2 livres sterling. Une Bible, 2 livres sterling. 4 fûts d'eau de vie, 2 livres sterling. Alors, les mêmes 2 livres sterling font circuler dans l'ordre indiqué ces marchandises diverses, en réalisant successivement leur prix, et s'arrêtent enfin dans la main du distillateur. Elles accomplissent ainsi 4 tours. Le déplacement 4 fois répété des 2 livres sterling résulte des métamorphoses complètes, entrelacées les unes dans les autres, du froment, de la toile et de la Bible, qui finissent par la première métamorphose de l'eau de vie. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Ce sont les productions qui le mettent en mouvement, l'argent entre parenthèses, et le font circuler. 3 petits points. La célérité de son mouvement supplée à sa quantité. Lorsqu'il en est besoin, il ne fait que glisser d'une main dans l'autre, sans s'arrêter un instant. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, le trône, l'oxyte, page 915-916, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, le déplacement 4 fois répété des 2 livres sterling résulte des métamorphoses complètes, entrelacées les unes dans les autres, du froment, de la toile et de la Bible, qui finissent par la première métamorphose de l'eau de vie. Les mouvements opposés et complémentaires les uns des autres, dont se forme une telle série, ont lieu successivement et non simultanément. Il leur faut plus ou moins de temps pour s'accomplir. La vitesse du cours de la monnaie se mesure donc par le nombre de tours des mêmes pièces de monnaie dans un temps donné. Supposons que la circulation des 4 marchandises dure un jour. La somme des prix à réaliser est de 8 livres sterling, le nombre de tours de chaque pièce pendant le jour, 4. La masse de la monnaie circulante, 2 livres sterling, et nous aurons donc somme des prix des marchandises divisée par le nombre des tours des pièces de la même dénomination dans un temps donné, égale masse de la monnaie fonctionnant comme instrument de circulation. Cette loi est générale. La circulation des marchandises dans un pays pour un temps donné renferme bien des ventes isolées, ouvrez la parenthèse, ou des achats, fermez la parenthèse, c'est-à-dire des métamorphoses partielles et simultanées où la monnaie ne change qu'une fois de place ou ne fait qu'un seul tour. D'un autre côté, il y a des séries de métamorphoses plus ou moins ramifiées, s'accomplissant côte à côte ou s'entrelaçant les unes dans les autres, où les mêmes pièces de monnaie font des tours plus ou moins nombreux. Les pièces particulières dont se compose la somme totale de la monnaie en circulation fonctionnent donc à des degrés d'activité très divers, mais le total des pièces de chaque dénomination réalise, pendant une période donnée, une certaine somme de prix. Il s'établit donc une vitesse moyenne du cours de la monnaie. La masse d'argent qui, par exemple, est jetée dans la circulation à un moment donné est naturellement déterminée par le prix total des marchandises vendues à côté les unes des autres. Mais dans le courant même de la circulation, chaque pièce de monnaie est rendue, pour ainsi dire, responsable pour sa voisine. Que l'une accélère la vitesse de son cours, alors l'autre voit la sienne décliner ou se trouve complètement éjectée de la sphère de la circulation, attendu que celle-ci ne peut absorber qu'une masse d'or qui, multipliée par le nombre moyen de ses tours, est égale à la somme des prises à réaliser. Si les tours de la monnaie augmentent, sa masse diminue. Si ses tours diminuent, sa masse augmente. La vitesse moyenne de la monnaie étant donnée, la masse qui peut fonctionner comme instrument de la circulation se trouve déterminée également. Il suffira donc, par exemple, de jeter dans la circulation un certain nombre de billets de banque d'une livre pour en faire sortir autant de livres sterling en or, truc bien connu par toutes les banques. De même que le cours de la monnaie en général reçoit son impulsion et sa direction de la circulation des marchandises, de même, la rapidité de son mouvement ne reflète que la rapidité de leur changement de forme. La rentrée continuelle des séries de métamorphoses les unes dans les autres, la disparition subite des marchandises de la circulation et leur remplacement aussi subit par des marchandises nouvelles. Dans le cours accéléré de la monnaie apparaît ainsi l'unité fluide des phases opposées et complémentaires. Transformation de l'aspect usage des marchandises en leur aspect valeur et retransformation de leur aspect valeur en leur aspect usage, ou l'unité de la vente et de l'achat comme deux actes alternativement exécutés par les mêmes échangistes. Inversement, le ralentissement du cours de la monnaie fait apparaître la séparation de ces phénomènes et leur tendance à s'isoler en opposition l'un de l'autre. L'interruption des changements de forme et conséquemment des permutations de matière. La circulation, naturellement, ne laisse pas voir d'où provient cette interruption. Elle ne montre que le phénomène. Quant au vulgaire qui, à mesure que la circulation de la monnaie se ralentit, voit l'argent se montrer et disparaître moins fréquemment sur tous les points de la périphérie de la circulation, il est porté à chercher l'explication du phénomène dans l'insuffisante quantité du métal circulant. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. L'argent étant la mesure commune des ventes et des achats, quiconque a quelque chose à vendre et ne peut se procurer des acheteurs est enclin à penser que le manque d'argent dans le royaume est la cause qui fait que ces articles ne se vendent pas. Et dès lors, chacun de s'écrier que l'argent manque, ce qui est une grande méprise. 3 petits points. Que veulent donc ces gens qui réclament de l'argent à grands cris? 3 petits points. Le fermier se plaint. Il pense que, s'il y avait plus d'argent dans le pays, il trouverait un prix pour ses denrées. Il semble donc que ce n'est pas l'argent, mais un prix qui fait défaut pour son blé et son bétail. 3 petits points. Et pourquoi ne trouve-t-il pas de prix? 3 petits points. Premièrement, ou bien il y a trop de blé et de bétail dans le pays, de sorte que la plupart de ceux qui viennent au marché ont besoin de vendre comme lui, et peu ont besoin d'acheter. Deuxièmement, ou bien le débouché ordinaire par exportation fait défaut. 3 petits points. Ou bien encore, troisièmement, la consommation diminue, comme lorsque bien des gens, pour raison de pauvreté, ne peuvent plus dépenser autant dans leur maison qu'ils le faisaient auparavant. Ce ne serait donc pas l'accroissement d'argent qui ferait vendre les articles du fermier, mais la disparition d'une de ces trois causes. C'est de la même façon que le marchand et le boutiquier manquent d'argent, c'est-à-dire qu'ils manquent d'un débouché pour les articles dont ils trafiquent, par la raison que le marché leur fait défaut. Trois petits points. Une nation n'est jamais plus prospère que lorsque les richesses ne font qu'un bond d'une main à l'autre. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Sir Dudley North, Discourses upon Trade, London, 1691, page 11-15, Passim, fermez la parenthèse. Toutes les élucubrations d'Herrenschwand se résument en ceci, que les antagonismes qui résultent de la nature de la marchandise et qui se manifestent nécessairement dans la circulation pourraient être écartés en y jetant une masse plus grande de monnaie. Mais si c'est une illusion d'attribuer un ralentissement ou un arrêt dans la marche de la production et de la circulation au manque de monnaie, il ne s'ensuit pas le moins du monde qu'un manque réel de moyens de circulation provenant de limitations législatives ne puisse pas, de son côté, provoquer des stagnations. Fin de la note de bas de page. Donc, quant aux vulgaires qui, à mesure que la circulation de la monnaie se ralentit, voient l'argent se montrer et disparaître moins fréquemment sur tous les points de la périphérie de la circulation, il est porté à chercher l'explication du phénomène dans l'insuffisante quantité du métal circulant. Le quantum total de l'argent qui fonctionne comme instrument de circulation dans une période donnée est donc déterminé d'un côté par la somme des prix de toutes les marchandises circulantes, de l'autre par la vitesse relative de leur métamorphose. Mais le prix total des marchandises dépend et de la masse et des prix de chaque espèce de marchandise. Ces trois facteurs, mouvement des prix, masse des marchandises circulantes et enfin vitesse du cours de la monnaie, peuvent changer dans des proportions diverses et dans une direction différente. La somme des prix à réaliser et par conséquent la masse des moyens de circulation qu'elle exige peuvent donc également subir des combinaisons nombreuses dont nous ne mentionnerons ici que les plus importantes dans l'histoire des prix. Premièrement, les prix restant les mêmes, la masse des moyens de circulation peut augmenter, soit que la masse des marchandises circulantes augmente, soit que la vitesse du cours de la monnaie diminue, ou que ces deux circonstances agissent ensemble. Inversement, la masse des moyens de circulation peut diminuer si la masse des marchandises diminue ou si la monnaie accélère son cours. Deuxièmement, les prix des marchandises subissant une hausse générale. La masse des moyens de circulation peut rester la même si la masse des marchandises circulantes diminue dans la même proportion que leur prix s'élève, ou si la vitesse du cours de la monnaie augmente aussi rapidement que la hausse des prix, tandis que la masse des marchandises en circulation reste la même. La masse des moyens de circulation peut décroître, soit que la masse des marchandises décroisse, soit que la vitesse du cours de l'argent croisse plus rapidement que leur prix. Troisièmement, les prix des marchandises subissant une baisse générale. La masse des moyens de circulation peut rester la même si la masse des marchandises croît dans la même proportion que leur prix baisse ou si la vitesse du cours de l'argent diminue dans la même proportion que les prix. Elle peut augmenter si la masse des marchandises croît plus vite ou si la vitesse du cours diminue plus promptement que les prix ne baissent. Les variations des différents facteurs peuvent se compenser réciproquement, de telle sorte que malgré leurs oscillations perpétuelles, la somme totale des prises à réaliser reste constante et par conséquent aussi la masse de la monnaie courante. En effet, si on considère des périodes d'une certaine durée, on trouve les déviations du niveau moyen bien moindres qu'on s'y attendrait à première vue, à part toutefois de fortes perturbations périodiques qui proviennent presque toujours de crises industrielles et commerciales et, exceptionnellement, d'une variation dans la valeur même des métaux précieux. Cette loi que la quantité des moyens de circulation est déterminée par la somme des prix des marchandises circulantes et par la vitesse moyenne du cours de la monnaie. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Il y a une certaine mesure et une certaine proportion de monnaie nécessaire pour faire marcher le commerce d'une nation, au-dessus ou au-dessous desquelles ce commerce éprouverait un préjudice. Il faut de même une certaine proportion de four things, liard entre parenthèses, dans un petit commerce de détail, pour échanger la monnaie d'argent, et surtout pour les comptes qui ne pourraient être réglés complètement avec les plus petites pièces d'argent. Trois petits points. De même que la proportion du nombre de farthings exigé par le commerce doit être calculée d'après le nombre des marchands, la fréquence de leurs échanges et surtout d'après la valeur des plus petites pièces de monnaie d'argent. De même, la proportion de monnaie, argent ou or entre parenthèses, requise par notre commerce, doit être calculée sur le nombre des échanges et la grosseur des paiements à effectuer. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. William Petty, A Treatise on Taxes and Contributions, London, 1667, page 17. Fermez la parenthèse. La théorie de Hume, d'après laquelle, ouvrez les guillemets, les prix dépendent de l'abondance de l'argent, fermez les guillemets, fut défendue contre Sir James Stuart et d'autre part A. Young dans sa Political Arithmetic, London, 1774, page 112 et suivant. Dans mon livre Zur Kritik, etc., page 183, j'ai dit qu'Adam Smith passa sous silence cette question de la quantité de la monnaie courante. Cela n'est vrai cependant qu'autant qu'il traite la question de l'argent ex professo. À l'occasion, par exemple dans sa critique des systèmes antérieurs d'économie politique, il s'exprime correctement à ce sujet. Ouvrez les guillemets. La quantité de monnaie dans chaque pays est réglée par la valeur des marchandises qu'il doit faire circuler. Trois petits points. La valeur des articles achetés et vendus annuellement dans un pays requiert une certaine quantité de monnaie pour les faire circuler et les distribuer à leurs consommateurs et ne peut en employer davantage. Le canal de la circulation attire nécessairement une somme suffisante pour le remplir et n'admet jamais rien de plus. Fermez les guillemets. Adam Smith commence de même son ouvrage, ex professo, par une apothéose de la division du travail. Plus tard, dans le dernier livre sur les sources du revenu de l'État, il reproduit les observations de A. Ferguson, son maître, contre la division du travail. Ouvrez la parenthèse, Wealth of Nations, 1, grand 4, chapitre 1. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, cette loi que la quantité des moyens de circulation est déterminée par la somme des prix des marchandises circulantes et par la vitesse moyenne du cours de la monnaie revient à ceci. Étant donné et la somme de valeur des marchandises et la vitesse moyenne de leur métamorphose, la quantité du métal précieux en circulation dépend de sa propre valeur. L'illusion d'après laquelle les prix des marchandises sont, au contraire, déterminée par la masse des moyens de circulation, et cette masse par l'abondance des métaux précieux dans un pays. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Les prix des choses s'élèvent dans chaque pays à mesure que l'or et l'argent augmentent dans la population. Si donc l'or et l'argent diminuent dans un pays, les prix de toutes choses baisseront proportionnellement à cette diminution de monnaie. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Jacob van der Lint, Money Answers All Things, London, 1734, page 5, fermez la parenthèse. Une comparaison plus attentive de l'écrit de van der Lint et de l'essai de Hume ne me laisse pas le moindre doute que ce dernier connaissait l'œuvre de son prédécesseur et en tirait parti. On trouve aussi chez Barbon et beaucoup d'autres écrivains avant lui cette opinion que la masse des moyens de circulation détermine les prix. Ouvrez les guillemets. Aucun inconvénient, dit-il, ne peut provenir de la liberté absolue du commerce, mais au contraire, un grand avantage, trois petits points. Puisque si l'argent comptant d'une nation en éprouve une diminution, ce que les prohibitions sont chargées de prévenir, les autres nations qui acquièrent l'argent verront certainement les prix de toutes choses s'élever chez elles à mesure que la monnaie y augmente. Trois petits points. Et nos manufactures parviendront à livrer à assez bas prix pour faire incliner la balance du commerce en notre faveur et faire revenir ainsi la monnaie chez nous. Ouvrez la parenthèse. Locke cite, page 44. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, l'illusion d'après laquelle les prix des marchandises sont au contraire déterminés par la masse des moyens de circulation, et cette masse par l'abondance des métaux précieux dans un pays, repose originellement sur l'hypothèse absurde que les marchandises et l'argent entrent dans la circulation les unes sans prix, l'autre sans valeur, et qu'une partie aliquote du tas des marchandises s'y échange ensuite contre la même partie aliquote de la montagne de métal. Note de bas de page. Il est évident que chaque espèce de marchandise forme, par son prix, un élément du prix total de toutes les marchandises en circulation. Mais il est impossible de comprendre comment un tas de valeurs d'usage incommensurables entre elles peut s'échanger contre la masse d'or ou d'argent qui se trouve dans un pays. Si l'on réduisait l'ensemble des marchandises à une marchandise générale unique, dont chaque marchandise ne formerait qu'une partie aliquote, on obtiendrait cette équation absurde. Marchandise générale égale x quintaux d'or, marchandise grand A égale partie aliquote de la marchandise générale égale même partie aliquote de x quintaux d'or. Ceci est très naïvement exprimé par Montesquieu. Ouvrez les guillemets. Si l'on compare la masse de l'or et de l'argent qui est dans le monde avec la somme des marchandises qui y sont, il est certain que chaque denrée ou marchandise, en particulier, pourra être comparée à une certaine portion de l'autre. Supposons qu'il n'y ait qu'une seule denrée ou marchandise dans le monde, ou qu'il n'y en ait qu'une seule qui s'achète, et qu'elle se divise comme l'argent. Une partie de cette marchandise répondra à une partie de la masse d'argent. La moitié du total de l'une à la moitié du total de l'autre, etc. L'établissement du prix des choses dépend toujours fondamentalement de la raison du total des choses au total des signes. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Montesquieu, Locke cite, tome 3, page 12-13, fermez la parenthèse. Pour les développements donnés à cette théorie par Ricardo, par son disciple James Mill, Lord Overstone, etc., voir mon écrit Zur Kritik, etc., pages 140-146 et pages 150 et suivants. Mr. James Stuart Mill, avec la logique éclectique qu'il manie si bien, s'arrange de façon à être tout à la fois de l'opinion de son père, James Mill, et de l'opinion opposée. Si l'on compare le texte de son traité, Principes d'économie politique, avec la préface de la première édition, dans laquelle il se présente lui-même comme l'Adam Smith de notre époque, on ne sait quoi le plus admirer, de la naïveté de l'homme ou de celle du public qui l'a pris, en effet, pour un Adam Smith, bien qu'il ressemble à ce dernier, comme le général Williams de Corse, au duc de Wellington. Les recherches originales, d'ailleurs peu étendues et peu profondes de Mr. James Stuart Mill, dans le domaine de l'économie politique, se trouvent toutes rangées en bataille dans son petit écrit, paru en 1844, sous le titre « Some Unsettled Questions of Political Economy ». Quant à Locke, il exprime tout crûment la liaison entre sa théorie de la non-valeur des métaux précieux et la détermination de leur valeur par leur seule quantité. Ouvrez les guillemets. L'humanité ayant consenti à accorder à l'or et à l'argent une valeur imaginaire, trois petits points, la valeur intrinsèque considérée dans ces métaux n'est rien autre chose que quantité. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Locke, ouvrez les guillemets, Some Considerations, etc. 1691, édition de 1777, volume 2, page 15, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Ouvrez la parenthèse. Locke, ouvrez les guillemets, Some Considerations, etc. Fermez les guillemets. 1691, édition de 1777, volume 11, page 15, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, l'illusion d'après laquelle les prix des marchandises sont, au contraire, déterminés par la masse des moyens de circulation, et cette masse par l'abondance des métaux précieux dans un pays, repose originellement sur l'hypothèse absurde que les marchandises et l'argent entrent dans la circulation, les unes sans prix, l'autre sans valeur, et qu'une partie aliquote du tas des marchandises s'y échange ensuite contre la même partie aliquote de la montagne de métal.